dans ce village où je suis, il y a 712 familles musulmanes, 49 familles bouddhistes et 132 familles chrétiennes catholiques. Et c'est un peu un îlot de paix, de bonne entente et de dialogue de vie, puisque toutes les fêtes de famille, des naissances, des mariages comme des morts, sont vécues ensemble, chacun priant suivant ses convictions, et en marquant aucune différence. Et à la fin du Ramadan, toutes les familles chrétiennes et bouddhistes vont visiter toutes les familles musulmanes. Pour la fête du Waisak bouddhiste, ce sont les chrétiens et les musulmans qui vont dans toutes les familles bouddhistes. Et pour Pâques, ce sont tous les musulmans et tous les bouddhistes qui viennent visiter les familles chrétiennes. Ça dure 3 jours. Et là, c'est vraiment la fête.
Comment est-ce que vous avez réussi à instaurer cet esprit?
C'est arrivé, pourquoi? Parce que ce sont des transmigrants venus de Java, qui sont donc de la même ethnie, souvent de familles déjà proches. Et puis, c'est venu comme ça. Et vraiment, c'est, je ne dirais pas que c'est un petit paradis, mais c'est vraiment quelque chose de très prenant. Ça a été pour moi une expérience très, très forte. Ça n'est pas vrai dans toutes les paroisses du diocèse, mais on peut dire quand même que dans le sud Sumatra, il y a la paix, malgré les différences, mais dans ces différences, justement, vécues ensemble, dans un respect profond. Malgré aussi, chez les musulmans, il y a une secte assez un peu extrémiste, LBII, 70 à 80 familles. Ils ont été longtemps un petit peu en retrait, et puis maintenant, l'unité s'est faite à nouveau. Et tout simplement, ça s'est fait comme ça, dans la vie, dialogue de vie. Ce qui compte pour le dialogue, c'est pas tellement des dialogues directs, interreligieux, où les différences ressortent, mais c'est le dialogue dans la communion de vie, dans tous les domaines de la vie sociale, de la vie familiale. C'est ça qui est très important. C'est là, c'est la clé d'un écuménisme, si vous voulez, de vie.
Quand vous dites que c'est une exception, ça veut dire qu'ailleurs, c'est plus compliqué?
En général, malgré les troubles qu'il y a eu à la fin du régime de Suharto, dans les années 95-97, il y a eu pas mal d'églises brûlées. Il y a eu, il y a une dizaine de jours, une bombe dans une église chrétienne de Solo, au centre Java. Mais enfin, en général, non. Mais il y a une telle diversité en Indonésie, entre le nord et le sud Sumatra, par exemple, ou dans les îles de Flores, où il y a 88% de chrétiens, ou dans les grandes villes, où il y a de grosses paroisses. Dans certains coins, ça peut être plus compliqué, aussi bien pour la construction de nouveaux lieux de culte. Tout dépend de l'endroit, tout dépend de la situation.
Qu'est-ce qui fait que parfois la construction d'une église est problématique?
Il y a une loi qui est parue. Il faut un nombre assez important de chrétiens pour avoir la permission de construire une église. Et il faut aussi l'autorisation de tout le voisinage. Alors souvent, ça pose des problèmes insolubles. Et on a vu des églises même construites avec la permission des autorités gouvernementales. Et l'église n'a pas pu être mise en service à cause de l'opposition d'une partie de la population. Ça, c'est un véritable problème. Mais pour la pratique religieuse, que ce soit dans les églises ou dans les réunions de quartier, souvent, ça se passe très bien. À condition d'être assez discret. Il ne faut pas de provocation. Bien sûr, on ne peut pas faire des processions dans les villages ou dans les villes ou des choses semblables. Enfin bon, ce n'est pas quand même une persécution brutale. Mais il y a souvent des empêchements.
Est-ce que pour les écoles ou pour les œuvres de charité, il y a ces problèmes également?
Non, il y a quand même des écoles chrétiennes qui sont d'abord de bonne qualité et qui sont fréquentées par beaucoup de musulmans. Deuxièmement, il y a des hôpitaux qui sont ouverts à tout le monde. Là, il n'y a pas de difficulté. Ce sont des institutions qui datent depuis longtemps, qui sont admises, qui sont même accréditées par le gouvernement.
Est-ce qu'il y a des problèmes aussi de prosélytisme?
Souvent, oui, on peut être accusé en distribuant ou des médicaments ou en allant visiter des malades. Mais quand les gens se connaissent bien, ont compris que c'était désintéressé, ça se passe bien. C'est vrai, il faut faire très attention.
Est-ce que le gouvernement est très attentif au respect des minorités religieuses?
C'est pas forcément que chacun se débrouille, mais on peut dire quand même qu'il y a en ce moment, beaucoup plus même que du temps du général Suharto, qui a régné un peu en dictateur pendant 32 ans, mais le nouveau gouvernement n'a pas l'air de s'intéresser, de s'inquiéter assez. Et c'est souvent que les autorités religieuses chrétiennes, bouddhistes ou hindouistes, les religions reconnues officiellement par la Constitution, interviennent auprès des députés, auprès du gouvernement pour se plaindre de certains faits qui sont contraires à la Constitution et à la liberté d'exercice de la religion.
Et par rapport aux fidèles, est-ce que là, les catholiques, on peut parler de discrimination ?
On ne peut pas dire que les droits soient égaux, aussi bien dans les administrations que dans l'armée, la justice ou le gouvernement. Si on est chrétien, on a peu de chances de pouvoir accéder à un poste supérieur. Il y a eu autrefois des ministres chrétiens, il n'y en a plus pratiquement aucun.
Comment vous l'expliquez ça ?
C'est une influence quand même, on sent une pression de plus en plus forte. Le ministère des cultes est pratiquement un deuxième état dans l'État. Il est très puissant, financièrement d'une part, et puis par sa présence partout, par les mosquées, par les imams, par les institutions musulmanes.
Est-ce qu'au niveau pastoral, pour vous, il y a des problèmes, des difficultés ? Les mariages mixtes ?
Alors, il y a toujours les problèmes, parce que le mariage mixte n'est pas reconnu par les musulmans. Or, le mariage religieux se fait avant le mariage civil. Inversement à ce qui se passait du temps de la colonie hollandaise, et ça, ça a été un problème depuis 1974, et qui reste, au point de vue pastoral, c'est le problème clé, ça. Quelquefois, ça se passe bien, la partie musulmane devient chrétienne, mais souvent, c'est la partie chrétienne qui est pratiquement obligée de se faire musulmane, au moins pour la cérémonie. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, ils ne reviennent pas. Le problème se règle au coup par coup. Ça reste très difficile. Pour nous, c'est une souffrance, bien sûr.
Est-ce que vous diriez que l'Église catholique est une Église très vivante, ou qu'il y a des difficultés en Indonésie ?
L'Église catholique est vivante. Les communautés se retrouvent non seulement à l'Église le dimanche, mais au moins presque chaque semaine dans des réunions de quartier pour l'approfondissement de l'Évangile. Il y a des difficultés qui arrivent avec la consommation qui pénètre un peu partout, avec les moyens de communication, téléphone portable, télévision, tout ce qu'il peut y avoir, les véhicules qui sont de plus en plus. Ça permet bien sûr de se déplacer, mais aussi ça peut être un facteur de dispersion aussi. On le sent ça. Il y a une transformation de la société très, 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 très rapide.